Radio Grand Ciel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blum. Aujourd'hui, je reçois Morgane Philippe, coordinatrice du château de Maintenon. J'ai visité sous sa conduite le château de Maintenon et j'ai été absolument conquise et vraiment heureuse de ce moment passé dans un si bel endroit. Aussi, je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Morgane Philippe, bonjour.
Bonjour Christiane Blin.
Alors, bien, j'aimerais que vous nous fassiez faire une visite de ce château de Maintenon. Peut-être aussi nous en raconter l'histoire avant pour que nous puissions mieux profiter de la visite. Alors, il était une fois, je vais dire.
Il était une fois le château de Maintenon, dont l'histoire ne commence pas avec Madame de Maintenon, comme on le pense souvent en arrivant sur le site. Puisque le château est là depuis le XIIe siècle, fin du XIIe siècle, ce sont les seigneurs de Maintenon, les Amauriques, qui sont propriétaires, et la grande tour carrée, le donjon du château médiéval, peut en témoigner. Les Amauriques vont rester propriétaires jusqu'au début des années 1500, date à laquelle... sujet à quelques petits problèmes d'ordre financier, comme c'est souvent le cas dans l'histoire des châteaux. Ils sont obligés de céder leurs biens à leur principal créancier, à savoir Jean Cottreau, le trésorier des rois Louis XII, puis François Ier. Jean Cottreau va donc récupérer ce domaine médiéval, fortifié, à caractère défensif, et le transformer en demeure de plaisance. Il va par exemple copier l'aile du château de Blois, le château de Louis XII, en hommage à son roi. Il va également faire construire la grande église Saint-Nicolas, devant laquelle le visiteur passe au moment de rentrer dans l'accueil du château, et c'est là qu'il sera enterré en 1530, à sa mort. À cette époque, c'est sa fille Isabeau qui va récupérer le domaine, se marier avec le seigneur d'Angennes, seigneur de Rambouillet. Le château reste entre les mains de la famille jusqu'en 1674,
date à laquelle... C'est là que
voilà,
l'histoire commence.
Elle met son château en vente. Il se trouve que celle qui ne s'appelle pas encore Madame de Maintenon, qui n'est encore que la veuve Scarron, née Françoise d'Aubigné, eh bien vient de recevoir une grosse somme d'argent de la part de Louis XIV, officiellement pour les bons services qu'elle a rendus à ses enfants illégitimes, puisqu'elle était la gouvernante des enfants que le roi avait eu avec Madame de Montespan, la maîtresse en titre. Elle reçoit cet argent, elle va donc décider d'investir pour assurer ses vieux jours, puisqu'elle est très bien placée à la cour pour savoir que les faveurs se font et se défont très rapidement. À noter que Madame de Maintenon, elle, n'a jamais rien possédé. Elle naît dans une famille pauvre, le père est emprisonné à Niort. Sa mère, eh bien, c'est simplement la fille du geôlier. Elle naît en 1635 dans la conciergerie de la prison.
Quelle belle carrière quand même.
C'est un peu l'histoire de Cendrillon. Et d'ailleurs, Charles Perrault publie Cendrillon quelques années après le mariage de Louis XIV et Madame de Maintenon.
Oui.
Coïncidence, mais quand même beaucoup de parallèles entre les deux histoires.
Oui, exactement.
Puisqu'on retrouve le personnage de la marâtre dans Cendrillon en la personne de la marraine de Madame de Maintenon, qui, lorsqu'elle a l'âge de 16 ans, va décider de la convertir de force au catholicisme et de l'enfermer au couvent. À ce moment-là apparaît le personnage de la bonne fée, qui ressemble un peu à la fée Carabosse dans cette histoire, puisqu'il s'agit du poète Scarron, un vieux monsieur
bossu,
cul de jatte, perclus de rhumatisme, lui-même se décrivait comme ayant le corps en Z, et qui va, eh bien, non pas s'éprendre, mais être touché par la jeune Françoise, puisque celle-ci, il pressent chez elle une intelligence qui demande qu'à être développée, et il va lui proposer de l'épouser sans dot, puisque la famille était ruinée, pour venir l'assister au quotidien, en échange de quoi elle va faire la connaissance de toutes les belles personnes qui se prêchent chez Scarron. Scarron est un esprit brillant, il tient salon dans le Marais, c'est là-bas que se réunissent les libertins, les premiers, alors c'est un peu anachronique, mais on parle des prémices des Lumières, on y conteste le pouvoir, on y parle littérature, on y parle art, c'est ici que Madame de Maintenon va construire ses connaissances et donc rencontrer toutes ces personnes qui vont l'emmener jusqu'à Madame de Montespan, à partir de là, jusqu'à Louis XIV.
Voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle va pouvoir acquérir ce château.
Tout à fait. Puisqu'à la mort de Scarron, elle se fait gouvernante et devient donc la gouvernante des enfants de Madame de Montespan et de Louis XIV. Elle s'installe à la cour avec eux dès qu'ils sont légitimés et reçoit donc cette grosse somme d'argent en remerciement de ses services. Elle achète le château, château qui possède d'ailleurs des terres très fertiles, donc qui lui assure des revenus réguliers jusqu'à la fin de ses jours, et qui a l'avantage d'être à seulement 5 heures de carrosse de Saint-Germain-en-Laye, où se trouve encore la cour.
Oui, Paris est tout près.
Paris est tout près.
Pour nos visiteurs également.
Exactement, puisque vous êtes à environ 45 minutes de la gare Montparnasse, lorsque vous venez en train.
Alors peut-être justement, mais faisons une parenthèse et dites-nous quand on peut le visiter, ce château.
Alors, le château est ouvert sur des périodes assez larges. On ouvre pour les vacances de février et on ferme fin novembre. En fait, on ne ferme pas réellement, c'est simplement que le grand spectacle de Noël se déroule le dernier week-end de novembre et les deux premiers week-ends de décembre. Donc là, le château est vraiment entièrement tourné autour de cet événement. On a une fermeture annuelle au mois de janvier. Et actuellement, donc là, jusqu'à fin août, nous sommes ouverts tous les jours à partir de 10h30 et jusqu'à 18h, dernière entrée, avec une visite guidée à 15h.
Alors, vous évoquiez Noël, peut-être ce serait bien qu'on en parle un peu plus, parce que c'est un événement très très important au château.
Effectivement, c'est un événement phare de l'agenda du château, puisqu'il réunit 800 bénévoles qui sont recrutés localement et qui crée une grande scénographie qui retrace l'histoire de Madame de Maintenon et l'histoire de son château, et qui se déroule dans une quinzaine de pièces du château, des pièces qui d'ailleurs ne sont pas toujours accessibles au public en dehors de ces périodes-là. Je pense par exemple au deuxième étage qui abrite la scène de la bibliothèque de Charles Perrault et puis la scène de l'enfance de Madame de Maintenon. Et c'est un travail vraiment titanesque auquel se livrent ces bénévoles, tous absolument passionnés. Et voilà,
qui vont allumer plus de 1000 bougies dans le jardin.
C'est ça, si vous venez voir le spectacle en nocturne, vous pouvez effectivement bénéficier d'une vue absolument sublime sur ces jardins, illuminés à la bougie, avec l'aqueduc qui se détache en fond, les berges également illuminées, les berges du canal Louis XIV.
Et je crois qu'il faut retenir très tôt pour les fêtes de Noël.
Oui, alors la billetterie ouvre début octobre. C'est notre deuxième édition au château de Maintenon, puisque la première édition avait lieu l'année dernière. Ça a été un succès fantastique. Les 6000 places se sont vendues en 2 semaines. Donc là, les 12 000 places en vente vont partir aussi très, très rapidement. Il ne faut pas tarder pour réserver.
Alors peut-être visitons le château maintenant.
Alors donc le château, la visite s'effectue en deux parties. Vous rentrez d'abord dans la partie des petits appartements, ceux de Madame de Maintenon, quelqu'un qui était très frileux, qui supportait mal la vie à Versailles, où le roi ouvrait grand les fenêtres à longueur d'année. À Maintenon, elle trouve des petites pièces faciles à chauffer, qu'elle habille de cheminée. Au XIXe siècle, elles sont habillées de cuir, vraiment dans cette idée de garder la chaleur au sein des pièces. Vous traversez l'antichambre de Madame de Maintenon pour arriver jusque dans sa chambre avec de nombreux tableaux au mur. Je pense à des cuirs de Malines, je pense à ces tomettes Renaissance qui sont là donc depuis avant Madame de Maintenon, qu'elle a foulé de son pied. À noter que le mobilier qui se trouve à l'intérieur du château n'est pas le mobilier d'origine. L'ensemble du mobilier a été brûlé, pillé, vendu aux enchères au moment de la Révolution française. Un château a vécu Louis XIV dans les années 1790, ça fait un petit peu tâche. Et du coup, c'est la famille de Noailles, les héritiers de Madame de Maintenon, qui vont s'attacher à remeubler ce château au XIXe siècle, avec du mobilier d'époque. Ce sont de très grands collectionneurs, mais qui n'est donc pas le mobilier d'origine du château.
Et les Noailles se sont succédés tout le temps depuis Madame de Maintenon.
Tout à fait. L'histoire donc remonte à 1698,
oui.
Puisque Madame de Maintenon a épousé le roi entre-temps. C'est un mariage secret à la mort de la reine en 1683. Et elle voit s'évanouir son rêve de terminer sa vie, de prendre sa retraite au château de Maintenon, puisqu'elle doit vivre avec le roi à Versailles. Mais elle a vraiment une affection toute particulière pour ce lieu dans lequel finalement elle n'a pas beaucoup habité. Elle a été propriétaire de 1674 à 1698, mais elle n'y a pas tant habité que ça. Par contre, sa marque est vraiment très prégnante au sein du château et au sein de la commune. Elle a donné de très nombreuses consignes, sa correspondance en témoigne, sur l'ordonnancement, l'aménagement du château et du village alentour. Et donc, elle a beaucoup d'affection pour ce château, elle ne veut pas s'en séparer, elle veut que ça reste dans sa famille. Elle va donc en doter sa nièce en 1698 lors de son mariage avec Adrien Maurice de Noailles, l'un des plus beaux partis de la cour, qui va devenir maréchal et pair de France. Et depuis cette époque, le château s'est transmis de Noailles en Noailles.
Voilà.
Jusqu'à, eh bien, jusqu'à tout récemment, puisque la dernière héritière, Geneviève de Noailles, récupère le château en 1953. Elle épouse Monsieur Rindre, et donc la famille Rindre va créer, elle va fonder en 1983 la Fondation Mansart, Parquet de Demeure de France, qui est aujourd'hui la propriétaire morale du château, et qui en cède la gestion en 2005 au conseil départemental d'Eure-et-Loire, dans le cadre d'un bail emphytéotique de 99 années.
Voilà. Mais c'est quand même une belle histoire de Madame de Maintenon, parce que jusqu'à nos jours, c'était quand même elle qui s'alignait, qui était présente au château.
Tout à fait. La lignée dont le blason est visible un peu partout dans le château, je pense notamment à cette grande galerie majestueuse par laquelle nous terminerons la visite tout à l'heure.
Alors ce blason qui évoque, on peut peut-être le décrire puisque vous en parlez.
Alors le blason, deux blasons se retrouvent au château, deux blasons principaux. Le lion des d'Aubigné, celui de la famille de Madame de Maintenon, celle qui a rendu célèbre le domaine. Et puis ce blason de la famille de Noailles qui est omniprésent puisque c'est Paul de Noailles au XIXe siècle qui va entièrement remanier le château. Ce blason, alors en termes d'héraldique, on parle de bande d'or sur champ de gueule, donc sur un fond rouge et qui parsème les pièces du château.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Morgane Philippe et nous visitons le château, le très beau château, dirais-je, de Maintenon. Et Morgane Philippe, vous avez choisi le Barbier de Séville. Pourquoi ?
Alors, c'est un petit clin d'œil à un événement qu'on a organisé en début d'été. Anachronique par rapport à Madame de Maintenon, par contre ça se place très bien à l'époque de Paul de Noailles. Nous avons organisé donc des dîners estivaux dans le parc du château de Maintenon.
Récemment,
alors c'était début juillet. Trois grandes soirées spectacles avec une grande tablée de 100 convives. Le public était convié à venir manger lors de ces dîners.
Et c'était un dîner aussi...
Dîner aux chandelles, un dîner d'étoiles, réalisé par l'équipe du Fabuleux Noël du château de Maintenon. Donc, ces bénévoles en costume, vous aviez une armée de domestiques qui servaient le repas, un duel au pistolet qui avait lieu sur la berge en face des tablés.
Ah, ça devait être magnifique.
Il y a un photographe avec les premiers flashs de cette époque-là. Voilà, quelque chose de très aristocratique.
Et le repas était aussi du 18e.
Alors, c'était un repas avec une petite salade océane, du poisson, enfin quelque chose d'assez simple, mais servi dans de la vaisselle d'époque, dans des bocaux. Enfin, c'était très sympathique. Ça a beaucoup plu.
Et alors, on peut dire à nos auditeurs que l'année prochaine, vous aurez aussi ces trois dîners.
Alors, je ne peux pas m'avancer. C'est vraiment l'équipe de production du spectacle qui s'est fait plaisir, qui a testé ce concept. Si le spectacle de Noël est reconduit, je ne peux absolument pas m'avancer sur ce dîner.
Voilà. Mais le spectacle de Noël, on peut encore le rappeler à nos auditeurs. Pouvez-vous nous donner les dates ? Parce que alors, ça, c'est très important.
Le Fabuleux Noël se déroulera dernier week-end de novembre et deux premiers week-ends de décembre, avec ouverture de la billetterie au début du mois d'octobre. Si vous souhaitez être tenu au courant, alors à la fois de cet événement, mais également de tout ce qu'on organise au château de Maintenon au cours de l'année, je pense par exemple aux nocturnes, aux visites en nocturne deux fois par mois. Je pense aux journées du patrimoine qui se dérouleront le 17 et le 18 septembre, où nous faisons venir, nous avons un partenariat avec les artisans du luxe à la française, qui sont des artisans d'art, qui exposent et qui travaillent au château de Maintenon. Ça a beaucoup plu l'année dernière. Même chose, c'est notre seconde édition cette année. Ils viennent donc présenter leur travail au public. Voilà, si vous voulez être tenu au courant de
tout
cela.
Tout ce qui se passe à Maintenon.
Tout ce qui se passe. Je pense aussi à l'exposition Volti qui se déroule jusqu'au 2 octobre. Toutes les informations sont sur notre site internet, donc châteaudemaintenon.fr.
Et puis. Alors, redites-le plus lentement.
Pardon, c'est châteaudemaintenon.fr.
Pas de majuscule.
Rien. Vous tapez Château de Maintenon sur votre site sur votre moteur de recherche et c'est la première page qui apparaîtra. Et on a également notre page Facebook, même chose, Château de Maintenon, sur lesquelles les actualités sont mises à jour très régulièrement.
Et là, on peut retenir.
Et là, vous pouvez tout à fait, vous aurez tous les liens nécessaires, les contacts, les numéros de téléphone pour retenir vos entrées.
Et bien maintenant, poursuivons notre visite.
Nous nous étions arrêtés aux appartements du XVIIe siècle. Exactement. Les appartements de Madame de Maintenon. Nous allons maintenant pénétrer dans les appartements dits du XIXe siècle, donc remaniés par la famille de Noailles, les héritiers de Madame de Maintenon. On pénètre d'abord dans cette aile Louis XII que Jean Cottreau avait conçue sur le modèle du château de Blois par une succession de petites pièces où de très beaux objets sont exposés, je pense, à ce vaisselier avec la porcelaine de Meissen, exactement,
magnifique.
Porcelaine de Saxe. Je pense à ce coffre en galucha qui date du XVIIe siècle.
Alors dont... peut-être pour nos auditeurs, vous expliquez ce qu'est le galucha.
Le galucha, c'est...
Parce que ça vaut très très cher. Hein,
ça vaut très cher, c'est extrêmement fragile. Cette technique de maroquinerie qui consiste à tendre de la peau de poisson, des écailles de raie ou de requin sur du bois. Ici, le coffre est incrusté de nacre. Et c'est quelque chose qui est en effet extrêmement précieux, d'autant que celui-ci donc date du XVIIe siècle. À noter que la technique n'est importée en France qu'un siècle plus tard,
oui.
Et que ce coffre-là vient directement du Japon, probablement cadeau d'ambassade à Madame de Maintenon. En tout cas, c'est la tradition orale du château qui le raconte, puisque dans ce coffre, on a retrouvé un morceau de rouet qui datait de cette période-là, et puis également des ouvrages originaux, des éditions originales des ouvrages de Scarron, le premier mari de Madame de Maintenon.
Ah oui,
donc ouais.
Ça c'est merveilleux de retrouver des choses pareilles.
Oui. Hein, alors beaucoup de chance, je pense aussi aux archives du château, qui ont été déposées aux archives départementales d'Eure-et-Loire par la famille propriétaire.
Ah oui.
Et qui ont survécu, fort heureusement, à la Révolution et à la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient bien cachées dans une petite pièce, la tour des archives du château.
Ah oui, on ne peut pas y aller, c'est une cachette en quelque sorte.
Très cachée.
Mais comme ça, bien, c'est toujours là.
C'est ça. Ça a permis de traverser les années sans être endommagée.
Oui.
Alors donc ensuite, lorsque vous passez devant ce coffre en galucha, les murs sont recouverts de papier peint chinois. Idem dans la pièce suivante, ces papiers peints qui ont une histoire aussi assez fantastique. C'est l'une des plus grandes richesses du château. Ils viennent directement de Chine, ont été posés au tout début du XIXe siècle. Et c'est un travail absolument exquis, d'une finesse remarquable. Le papier peint part du sol et monte jusqu'au plafond. Ce sont de véritables scènes de la vie sauvage qui s'expriment. Des plans d'eau, des oiseaux, des fruits, des arbres qui montent haut vers le ciel. Le travail est très beau et a été sauvé des aléas du temps par une tenture qui les recouvrait. Jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. On les a redécouverts seulement à ce moment-là. Et lorsqu'on a retiré les tentures, eh bien, fort heureusement, ils avaient été complètement protégés.
C'est une découverte merveilleuse.
Tout à fait. Oui.
Et maintenant, on ne les protège pas. Est-ce que vous mettez des volets?
Alors,
quand même,
on les protège minutieusement du soleil et de la lune.
Oui, c'est ça.
Les volets sont évidemment fermés tous les soirs. Et puis, on joue aussi avec les volets en fonction de l'orientation du soleil. On a posé aussi des protections pour éviter que les visiteurs ne posent leurs mains dessus.
Oui.
Alors, à noter que dans le château de Maintenon, lorsqu'on le visite, il y a une vraie, un vrai sentiment de proximité avec les objets, qui n'est pas un sentiment faux, c'est vrai. Vous êtes vraiment dans le décor.
Oui,
vous entrez dans ce château avec tout le mobilier qui est vraiment à portée de main. Enfin, c'est vraiment comme si on vivait encore.
Oui, parce que les pièces ne sont pas très grandes. Enfin,
c'est
part...
ça. À part donc ces pièces d'apparat dans lesquelles on entre maintenant, vous passez dans la pièce centrale du château. Qui relie les trois ailes, qui était l'ancienne chambre de Louis XIV. Entièrement remaniée au XIXe siècle, la quintessence de ce que Paul de Noailles a voulu pour son château, vous avez vraiment un double niveau de lecture, la vision que le XIXe se faisait du XVIIe siècle éclate dans cette pièce. Le plafond à voirie a été entièrement repeint. Vous trouvez de nombreux tableaux de rois, la copie du Hyacinthe Rigaud à la démesure du mur de la pièce face à la cheminée, où se trouvait certainement le lit de Louis XIV. nombreuses...
Tout a été très bien restauré quand même.
Extrêmement bien restauré. Il faut savoir que le château a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui.
Et comme le château a été, enfin, notamment son parc, ont été beaucoup bombardés, les vitres avaient explosé avec les déflagrations des bombes et l'eau des douves rentrait dans le château à chaque nouveau bombardement.
Donc, ah là là, ouais.
Couche de boue séchée sur 5 à 10 cm à peu près partout. Et Monsieur Rindre, donc le dernier propriétaire, raconte que c'est le personnel de la maison qui a réussi à récupérer les dorures du plafond en utilisant un sac de 50 kg de pommes de terre. Parce que l'amidon de pommes de terre a ce pouvoir précieux de faire briller les dorures, de nettoyer les dorures sans les abîmer. On ne peut pas frotter avec un chiffon, par exemple.
Alors ça, c'est quand même une bonne recette que vous donnez.
Exactement.
À nos auditeurs. Des pommes de terre pour nettoyer les dorures, c'est ça.
Le personnel du château, les propriétaires du château et puis les habitants de maintenant se sont vraiment très investis après la guerre pour lui redonner sa splendeur d'antan. Je pense à ce peintre à la retraite qui a retravaillé qui a restauré tous les tableaux qui avaient été endommagés, par exemple.
Ah oui. Gros travail.
Gros travail en perspective. Et donc, en quittant la chambre de Louis XIV, on rentre dans cette aile que Madame de Maintenon a construite pour lui, qui relie donc la chambre jusqu'à l'église, qui au XIXe siècle est transformée en une succession de pièces d'apparat. Il y a d'abord ce grand salon avec des portraits de rois et reines de France, ce grand lustre qui traversa le plancher au moment de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'une bombe est tombée au pied de l'escalier conçu par Neveu au XIXe siècle. Vous passez ensuite dans la salle de billard, extrêmement bien conservée, puisqu'on a encore les queues, le boulier et puis les banquettes de billard. Très grand billard de manufacture française, mais billard américain, qui fonctionne par un système de... La décoration est très typique de l'époque Napoléon III. Le lion est présent partout. Et en fait, ce sont les lions sculptés de part et d'autre du billard qui, lorsque la boule tombait dans la tête du lion, eh bien, le lion ouvrait la gueule et laissait passer la boule. C'est très ingénieux.
Système, oui, remarquable. Système.
Dans cette pièce-là, vous avez aussi un petit clin d'œil assez ironique à l'histoire, puisque Paul de Noailles, donc le propriétaire du 19e siècle, y est représenté aux côtés de sa femme, Alicia. Et si Paul de Noailles était le descendant par alliance de Madame de Maintenon, Alicia est née de Rochechouart de Mortemar. C'était la famille de Madame de Montespan. Et donc les deux familles, deux maîtresses du roi, ont fini par se réconcilier par leur descendance.
C'est merveilleux.
Ensuite, on peut passer dans la bibliothèque. L'ensemble mobilier est classé aux monuments historiques. Superbe, superbe ensemble mobilier, mais la bibliothèque est toute très riche des ouvrages qu'elle contient. On y trouve des originaux, donc les originaux de Scarron, qui ont été retrouvés dans ce fameux coffre en galucha. Ah oui. Les cahiers des demoiselles de Saint-Cyr, cette école que Madame de Maintenon crée pour les demoiselles de la noblesse pauvre après son mariage avec le roi, et qui va lui valoir le titre d'institutrice de France. C'est pour elle que ce titre est créé. Je pense à l'édition originale d'Esther et d'Athalie que Racine a écrit au château de Maintenon pour les demoiselles
de
Saint-Cyr.
Ce livre,
hein. Oui, c'est assez fantastique, d'autant qu'il y a sur la première page à l'intérieur du livre une signature à Madame de Maintenon.
Voilà,
tout laisse à penser que Racine lui-même a pu signer, a pu dédicacer cet ouvrage au moment de l'envoi.
Racine est omniprésent.
Oui, tout à fait. L'allée du jardin porte en effet son nom. À noter que là, pour le coup, le dramaturge a vraiment fait œuvre de courtisan auprès de Louis XIV et Madame de Maintenon, puisque Esther et Athalie les comparaisons entre l'histoire d'Esther et l'histoire de Madame de Maintenon sont flagrantes. Là, c'est vraiment, il était question d'apaiser un peu les scandales qu'avaient causé les premières représentations théâtrales à l'école de Saint-Cyr.
Ah oui.
Et puis, on termine en beauté, en apothéose, la visite de ce château par la grande galerie.
Ça, c'est magnifique.
Ça vous a plu?
Ah, beaucoup, beaucoup.
La grande galerie, une galerie salle de bal, salle de réception par excellence. On la compare souvent. Alors, on nous parle souvent de la galerie des glaces à Versailles. Le modèle, c'est la galerie Apollon au Louvre. Donc, une très longue galerie avec énormément de dorures et les portraits de la famille de Noailles, des premiers, donc les premiers ancêtres qui sont des croisés, on remonte jusqu'aux croisades, jusqu'au dernier, au XIXe siècle, avec une place centrale réservée à Madame de Maintenon, évidemment, et à sa nièce, qui ont rendu le château célèbre et permis la transmission à la famille de Noailles.
Oui, ça c'est vraiment une très belle visite que je vous invite, chers auditeurs, à suivre, parce que c'est vraiment un grand moment. Alors, venons-en peut-être au jardin et puis aussi à cet aqueduc qui est assez étrange en fait. Quand on arrive, on se dit un aqueduc,
Alors, c'est vraiment la spécificité de Maintenon. Vous avez à la fois ce jardin à la française dessiné sur les plans que André Le Nôtre avait créé pour Madame de Maintenon, donc avec toute sa symétrie, ses jeux d'eau, ce qu'on connaît très bien, notamment à Versailles. Et puis, au fond, majestueuse, ces ruines d'aqueduc, cet aqueduc qu'avait demandé Louis XIV, qu'avait exigé Louis XIV à Vauban. Vauban qui signe ici son seul ouvrage civil, d'ailleurs, et qui a été le caprice royal par excellence, conçu pour détourner les eaux de l'Eure et les emmener jusqu'à Versailles, puisque à Versailles, Louis XIV a fait construire ce grand palais sur une zone qu'il a complètement asséchée, et donc il fallait faire venir de l'eau pour alimenter les fontaines des jardins, et l'eau de la Seine, avec la machine de Marly ne suffisant pas, il a demandé à ce qu'on détourne l'eau de l'Eure, avec donc ce travail titanesque de l'aqueduc. Aujourd'hui, vous pouvez contempler un étage de 30 mètres de haut. Le projet initial, c'est 3 étages pour 70 mètres. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait dû représenter.
Je trouve que ça doit être plus joli maintenant, en fait, parce que ça devait être démentiel par rapport au château.
Ça devait être démentiel. Madame de Maintenon a été vraiment dévastée par ce chantier.
Oui, j'imagine.
Elle était furieuse. Sa correspondance en témoigne aussi. Aujourd'hui, c'est absolument superbe,
oui,
puisque la nature a repris ses droits. Vous avez les arbres qui poussent sur le dessus de l'aqueduc, le liard qui enserre ses arcades, et lorsqu'on est au pied de l'aqueduc, on voit très bien que les racines ont complètement pénétré l'ouvrage et que la nature a repris ses droits en quelque sorte, ouais, sur les hommes.
On voit la même chose au château de la Fertividame,
oui,
et c'est très joli aussi.
C'est ça.
Et là, c'est vrai que quand on arrive, c'est Hubert Robert, hein, c'est vraiment...
On rentre dans un tableau.
On rentre dans un tableau.
Vraiment, vous passez la voûte d'entrée, puisque ça ne se voit pas en fait de l'extérieur. Lorsqu'on arrive au château, et les visiteurs sont souvent très surpris, c'est qu'on n'imagine pas la splendeur que cache la silhouette du château. Lorsque vous passez la voûte d'entrée, eh bien se révèle à vous ce paysage absolument magnifique et enchanteur.
Et nous terminerons cette visite par cette exposition que vous avez en ce moment et qui se trouve dans l'église.
Tout à fait, alors qui est consacrée au peintre et sculpteur Volti. Donc l'exposition a lieu jusqu'au 2 octobre. Je vous invite à venir éventuellement le samedi matin, puisque le samedi matin, les tarifs sont réduits exprès pour cette exposition. Et vous pourrez accéder à des espaces qui habituellement sont fermés au public, puisque l'œuvre principale se trouve dans la cour d'honneur du château, mais les tapisseries sont exposées au rez-de-chaussée de la tour carrée, le donjon médiéval dont on parlait un peu avant, et puis le principal de l'exposition se déroule dans l'église Saint-Nicolas, cette église donc de la Renaissance qui est là depuis les années 1500 et entièrement vidée par les guerres successives qui se sont déroulées, beaucoup souffert au moment des guerres de religion et de la révolution des deux guerres mondiales. Et l'œuvre de Volti, l'exposition Volti, vient vraiment aménager cet espace et lui rendre toute sa splendeur.
Eh bien, Morgane Philippe, un très grand merci, parce que je crois que nous connaissons vraiment bien maintenant. Et puis, je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Merci, Christiane. Thank you.
di pensate l'accusa è falsità.
Un po' per lasciare il vero, non ho il dono in peso, perché se mi ho ucciso, ho visto.